BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Alors on est de retour pour la seconde partie de l'émission, il est 10h pile, retenez bien ce nouvel horaire, c'est 9h30, 10h30 désormais tous les jours sur BFM Business. Les experts aujourd'hui, Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, Sylvie Cazenave-Perret, présidente du groupe Poisson Packaging, et Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BCG. Christian, je reprends avec vous, on parlait juste avant la coupure de Donald Trump qui pourrait manipuler les marchés avec ses déclarations tonitruantes qui partent d'un côté et de l'autre. C'est pas toujours facile à suivre. Mais, est-ce que ce ne sont pas aussi les marchés financiers qui parfois dictent sa conduite à Donald Trump? On l'a revu cette semaine, hein. Dès que les taux longs touchent les 5%, Trump always chickens out. Il recule. Il a stoppé son opération Liberty dans le détroit d'Ormuz. On avait vu la même chose, hein, de mémoire. Corrigez-moi si je me trompe, mais sur la guerre commerciale, sur les tarifs au mois d'avril l'année dernière.
Le 9 avril.
Voilà. Donc, est-ce qu'il ne réagit pas aussi au marché obligataire, Donald Trump ?
Oui, il semble qu'il est plus sensible au marché obligataire qu'aux actions. Lors de son premier mandat, c'était plutôt le marché actions qu'il regardait. Maintenant, c'est le marché obligataire. Hein. Alors, pourquoi ? Parce que la dette américaine est énorme. Il ne faut pas l'oublier. Oui. On a un problème de déficit, mais eux aussi, ils ont un gros problème de déficit. Bon, c'est les États-Unis, mais quand même, ils ont un problème de financement. Et c'est là où on voit que l'administration américaine est quand même un peu sous pression. Et ça, il faut bien mettre ça dans le cadre aussi de toute sa pression qui met sur l'indépendance de la Banque Centrale Américaine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bessent, qui est le secrétaire au Trésor américain, a dans l'idée de plus en plus que les États-Unis se financent à court terme. Alors, pourquoi se financer à court terme ? Il y a un aspect purement technique. Lorsque vous émettez des T-bills, hein, donc des titres de court terme,
voilà.
Vous les émettez...
C'est les titres de trésorerie, c'est quoi ?
Trois mois, six mois, un an.
Oui.
Vous émettez à, par exemple, 99 et vous allez rembourser à 100. Mais vous ne versez pas d'intérêt. Donc, comptablement, vous n'avez pas versé d'intérêt sur la dette.
C'est la grande différence avec
les bonds. Vous augmentez votre endettement, hein.
Eh oui.
Parce que quand vous allez refinancer, parce qu'à 100, pour rembourser, vous allez réemprunter. Donc, vous allez réemprunter à 99, vous allez rembourser à 100, et ainsi de suite. Donc, le ratio dette sur PIB augmente, mais comptablement, vous n'avez pas versé d'intérêt. Donc, ça leur permet déjà de pas verser d'intérêt, et Trump ne veut pas verser d'intérêt, aux non-résidents. Parce qu'ils considèrent que voilà, c'est donner de l'argent à d'autres personnes, donc ça les rassure. Ça intervient aussi à un moment où sur la partie longue, ils ont énormément peur que les non-résidents ne financent plus la dette américaine, parce que aujourd'hui tout ce qui est le Golfe va avoir besoin de son épargne pour réinvestir. Une fois la guerre sera finie, ils vont plutôt remettre en route leur puits de pétrole que de financer la dette américaine. On a les Chinois qui se désengagent de cette dette. On a les Japonais qui agissent, c'est un peu compliqué sur le yen, mais ils seront peut-être moins d'appétit pour la dette américaine. Et les Européens, peut-être qu'à un moment donné, ils vont comprendre aussi qu'il faut peut-être arrêter de financer la dette américaine. Donc, tout ça fait qu'ils ont vraiment l'intention de se financer à court terme, mais ça pose problème, parce que quand vous avez 25% de votre dette, ça pourrait monter à plus de 25% de la dette qui est financée à court terme. Là, on est à tour des 22%. Hein.
Ah oui,
donc,
déjà.
Ça pourrait monter...
À titre de comparaison, vous avez pour la France, par exemple,
Il y a des différences culturelles. Voilà.
Si vous avez 25% de votre dette qui est à court terme, vous êtes très dépendant des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine.
Oui.
D'où cette pression de Trump pour qu'on baisse rapidement les taux. Ça lui facilitera. Je baisse les taux à court terme, moi je m'en moque du long terme, même si ça fait ce qu'on appelle plantifier la courbe, même si les taux l'ont monte, c'est pas son problème. Lui, il veut vraiment se financer à très court terme, pas cher, et donc quelque part...
Et donc, si je vous comprends, c'est plus de pouvoir pour Donald Trump.
Voilà, plus sur la dette est financée à court terme, plus la pression sur la Banque Centrale sera forte, plus l'indépendance de la Banque Centrale sera mise en cause. Donc, on voit que c'est un mécanisme qui est dangereux, parce que d'une part, s'il y a un choc inflationniste, si la Banque Centrale Américaine doit intervenir, ça fait exploser les coûts de financement de l'État américain, faut pas l'oublier. Oui. Et puis surtout, derrière, faut quand même attirer. Donc, ils ont fait aussi des réglementations qui font que les banques ont intérêt à prendre de la dette américaine. On a fait notamment les stablecoins qui va créer une demande de dette court terme américaine. Donc, ils ont mis en place un ensemble de choses qui font qu'ils essayent de drainer la liquidité sur cette dette de court terme, mais c'est quand même un élément de financement à court terme. C'est quand même dangereux. Ça reste quand même un élément de financement un peu chaud.
Est-ce que vous considérez que c'est dangereux aussi, Nathalie Janson?
Alors, moi, je vais un petit peu tempérer quand même, même si je remets pas en cause ce qui est dit sur la stratégie, mais je vais tempérer, en fait, je vais remettre dans le contexte. En fait, les États-Unis ont toujours émis plus de dettes à court terme qu'en France, par exemple. Si on prend le cas français...
C'est culturel, donc.
C'est pas que culturel, c'est aussi une histoire de marché. Parce que, de toute façon, en Europe, les marchés monétaires sont quand même... ils sont arrivés beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. Leur développement est quand même plus récent. Et on n'a pas cette...
On est beaucoup plus intermédiaire en Europe.
Voilà,
hein,
tout à fait.
Le ratio est totalement inverse entre les États-Unis pour le financement privé et l'Europe.
Oui, tout à fait.
C'est 80-20 ou 70-30.
C'est 70-30. On dit qu'il y a 70% du financement des États-Unis qui se fait via les marchés, et nous, c'est via les banques. Donc, en réalité, effectivement, en France, comme dans beaucoup de pays européens, on a plutôt une tendance à financer plus long. La maturité moyenne en France est au-delà de 8 ans. Elle a même été beaucoup plus élevée quand on a eu des taux négatifs à long terme, puisque beaucoup d'États, et on n'était pas les seuls, hein, on faisait tous pareil, on s'endettait à très long terme. C'est vrai qu'aux États-Unis, on n'a pas cette même tradition. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une tradition d'endettement à court terme qui a toujours été là, mais effectivement, elle était plutôt autour de 4 ans.
Elle roule sur combien, la dette américaine, si c'est 8
Comment
ans
elle est plutôt sur... à 6 ans. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est effectivement, on a une remontée de la partie courte, donc qui atteint, comme Christian vient de le dire, plutôt 25%, qui va vers ses 25%, elle est à 22. Et on a aussi une remontée de la partie très longue. Donc en fait, c'est ces deux-là qui remontent. Et il faut bien voir que, effectivement, aux États-Unis, on a eu plutôt une tradition d'éponger les déficits, c'est-à-dire le rajout de dépenses comme il y a en ce moment avec la guerre, en émettant de la dette courte. Pourquoi effectivement aux États-Unis c'est aussi plus facile? C'est parce qu'en fait c'est tout simplement plus facile parce que le marché,
c'est la profondeur des marchés aussi, hein,
est énorme, que on a toujours dit qu'il était, on dit as good as money, que c'est un substitut de la monnaie quasiment direct, que aujourd'hui il est utilisé en collatéralisation de plein d'opérations, c'est-à-dire que quand on veut emprunter, on n'emprunte pas sur son nom mais on met du petit bills et du coup on nous prête de l'argent. Donc en fait le fait, il y a beaucoup de mécanismes différents qui font qu'aujourd'hui il est très facile pour les Américains d'augmenter en fait cette partie de T-bills. Nous, ce serait moins le cas parce que déjà, on n'a pas un marché européen du T-bills.
Oui, on n'a pas le marché européen de l'épargne, évidemment, unifié.
On n'a pas cette profondeur du marché monétaire. Donc, en effet, aux États-Unis, il y a une appétence pour le court terme qu'on a rarement vu de toute façon, en France en tout cas. Il n'y a jamais eu de grande appétence de financement du déficit public par des taux courts, même si aujourd'hui, on voit quand même que le Trésor français va plutôt sur le court, parce que ça coûte quand même moins cher, puisque forcément, les taux longs sont plus élevés que les taux courts. Ouais. Donc même, de façon générale, il y a quand même une stratégie des gouvernements pour aller plus sur le court, parce que l'ensemble des taux
ont augmenté. Donc, y compris en Europe, y compris en France, que vous
exactement
nous dites.
Exactement, mais effectivement, c'est pas une stratégie, je ne conteste pas ce qu'a dit Christian en termes de dynamique, c'est-à-dire qu'on a une dynamique plus volontaire aux États-Unis de dette à court terme, mais aussi parce que chez eux, c'est plus facile quand même à placer que chez nous.
Mais est-ce que c'est dangereux? J'ai HK qui réagit sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, des réactions, @legenra, qui nous dit que s'endetter à court terme est très inflationniste et généralement pratique dans des pays émergents comme la Turquie.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner, ou je me suis dit que c'était peut-être pas, j'avais pas le mentionné tout de suite, mais c'est vrai que dans les pays effectivement où il y a de l'inflation, par exemple l'Italie, elle était connue pour effectivement s'endetter à court terme avant l'euro, quand elle avait à gérer l'inflation. Et ça effectivement, ça existe. Mais là, on est en train de parler des États-Unis, et ce que je viens d'expliquer, c'est que les États-Unis ont un avantage majeur par rapport à la plupart des autres pays sur le court terme, c'est que cette dette est demandée sur le marché financier comme collatéral. Donc, si vous voulez, comme on a besoin de collatéral pour aller emprunter, forcément, ils ont un avantage naturel. Et même si ça peut être dangereux, c'est beaucoup moins dangereux que si la France ou l'Allemagne se mettaient à emprunter à court terme.
Non, après, c'est pas un danger dans le sens qu'on prêtera toujours aux États-Unis et j'ai pas de problème là-dessus. Hein.
C'est le taux.
Le gros problème, c'est qu'ils sont hypersensibles au taux d'intérêt et connaissant l'administration Trump, c'est que très clairement, ça va peser sur l'indépendance de la Banque Centrale Américaine indirectement. C'est un des éléments, c'est pas le seul. Hein, je le reconnais. Mais c'est vrai que pour la Banque Centrale Américaine, elle sait que si elle relève ses taux, tout de suite, ça a un impact budgétaire beaucoup plus important. Et derrière, il y aura une pression du Trésor. Et quand on voit que Monsieur Walsh veut de plus en plus déléguer des fonctions de la Banque centrale américaine vers le Trésor américain, il y a vraiment un
problème
dynamique d'indépendance pour la Banque centrale. Et la
vie. Alors qu'il était le candidat qui rassurait le plus les marchés, hein, Kevin Walsh.
Il rassure les marchés parce qu'il est sur court terme. Il a une volonté de baisser les taux. Ça fait plaisir à tout le monde qu'on baisse les taux. Ok, mais sur pas mal d'éléments, je pense que le marché va s'apercevoir qu'il n'est pas si favorable que ça, notamment sur sa volonté de réduire la taille du bilan de la Banque centrale.
Il va y avoir des mauvaises surprises.
S'il peut le faire, le fait de réduire la taille du bilan, il sera aussi une source de volatilité parce qu'il a dit que la Banque centrale va beaucoup moins communiquer, beaucoup moins guider sur ce qu'elle va faire à l'avenir. Donc ça veut dire que dès qu'il va parler, il va être beaucoup plus source de volatilité sur les marchés. Et là, on va s'apercevoir que finalement, peut-être le discours continu de la Banque centrale, éviter des réactions de taux longs. Là, maintenant, si vous vous parlez plus que deux fois par an et que vous sortez vos prévisions et vous dites je vais faire ça deux fois par an, je peux vous dire ce jour-là, faut pas être absent, faut pas être absent sur les marchés parce que ça risque de bouger pas mal. Donc voilà, je pense qu'on en reparlera, mais je pense que ce qu'il propose n'est pas forcément si positif que ça à terme.
Bon, à surveiller, quand est-ce qu'il prend le poste? C'est fin mai, hein?
Alors, normalement, le mandat de M. Powell finit le 15 mai.
Le 15 mai.
On doit avoir une session plénière du Sénat pour valider ça, et après, il devrait prendre la fonction, donc ça sera autour du 15.
Bon, on a un calendrier à peu près similaire à celui de la France avec Emmanuel Moulin qui doit lui aussi passer des auditions devant le Parlement avant d'arriver au mois de juin. Sylvie Cazenave-Perret.
En tout cas, du point de vue des entreprises, et je pense qu'on peut retranscrire ça même très modestement en termes d'analyse de la confiance qui est faite à une économie. Quand on a confiance dans une économie, on peut financer à long terme. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Quand on n'a pas confiance, on finance à court terme. Donc, c'est ça...
C'est signe de quelque chose, c'est ça que vous nous dites.
...qui est le principal au niveau de ce qui se passe sur l'économie américaine et qui impacte nos propres économies. Parce que quand il n'y a pas la confiance de long terme, il n'y a pas d'investissement de long terme. Donc, c'est toute l'économie mondiale qui se ralentit et c'est exactement ce qu'on observe. On a dit tout à l'heure la Turquie qui se finançait à court terme, les pays émergents à une certaine époque qui se finançaient à court terme parce qu'il y avait ce déficit de confiance. Et c'est normal, on ne va pas prêter si on n'a pas de vision, si on n'a pas de visibilité. Et ce qui m'inquiète sur l'attitude des États-Unis, c'est que le président Trump, en actionnant ce système de court terme, soit il a un plan, soit il n'en a pas. Et moi,
c'est la grande question depuis.
Il n'en a pas du tout.
Bientôt 10 ans avec Donald Trump.
La stratégie n'est pas là. Elle est par rebond et ça ne crée pas la confiance.
En même temps, la croissance est là-bas. Oui. Les entreprises regardent là-bas pour les rendements. Et,
Je pense que malgré tout, les États-Unis ont.
La rentabilité eux, du côté des États-Unis.
Exactement. Hein, ont pour eux la rentabilité, l'augmentation de la productivité. Donc même s'ils ont des tensions sur les prix, ça sera moins grave que chez nous. Parce qu'ils ont des vrais gains de productivité. Il faut bien s'imaginer que même effectivement dans ce paysage compliqué, les États-Unis ayant un moteur quand même plus puissant, en tout cas, et plus tourné vers l'avenir, eh bien, ils sont dans une situation relativement meilleure que nous. Et donc, après, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais en effet, finalement, ce sera peut-être nous qui aurons plus de difficultés à nous adapter qu'eux.
Mais quand même, croissance Christian. Plus forte, mais au prix d'une politique budgétaire très expansionniste.
Beaucoup d'endettement.
Donc on est dans un cycle haussier et en plus on en remet en plus du charbon pour aller plus vite. Donc il y a quand même cet élément-là et on sent que quand même il y a un problème de redistribution qui quand même va être un frein économique à mon avis à terme sur la croissance américaine parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une minorité d'Américains qui vraiment en profitent de cette croissance.
La fameuse croissance en
cas. Et ça, c'est pas un gage de stabilité sociale, bon, d'une part, mais économiquement aussi, hein, on le voit. Les entreprises.
Mais ça crée pas tant de tensions que ça politique aux États-Unis. Ça, c'est ça
oui, mais je pense que ça va commencer à arriver parce que je dirais que c'est un peu la thématique inflation cache beaucoup de tensions finalement de différences et ça va s'accentuer parce que vous allez avoir quand même pas mal d'Américains qui vont être exclus du système de santé avec la réforme qu'on a faite au niveau de l'assurance santé, qui va faire que beaucoup d'Américains vont perdre leur couverture santé. Et là, ça va faire aussi un choc, à mon avis, dans l'opinion. Donc, on a des simulations et on voit que soit vous avez un coût de l'assurance santé qui va exploser, soit vous allez abandonner toute assurance santé. Donc là, on va avoir des effets, à mon avis, qui vont être un peu plus importants. Donc, attention. Il y a quand même des faiblesses. Alors, je ne dis pas que
dans un pays très abîmé par
le fentanyl, de l'économie américaine, on est d'accord sur l'innovation, sur le fait qu'ils soient indépendants énergétiquement, qu'ils payent pas cher leur gaz par rapport à l'Europe, qui va payer durablement cher son gaz. Donc, il y a quand même des vrais avantages compétitifs au niveau industriel, mais il y a aussi un gros problème de formation. Faut pas l'oublier. Hein. Regardez les investissements.
Nous ne sommes pas les seuls.
Dans les semi-conducteurs qui doivent être réalisés aux États-Unis sont retardés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter le personnel qualifié. Donc, il y a un vrai problème de formation aux États-Unis et il y a un vrai problème de répartition des richesses qui va peser sur la croissance, à mon avis, à terme. Donc, attention, il y a aussi des faiblesses.
Bon, et vous parliez d'inflation. L'inflation, c'est aussi la guerre commerciale et la hausse des tarifs douaniers qui... alors, on n'a pas tant vu que ça, finalement, depuis un an. On va faire le bilan un peu ensemble d'un an de guerre commerciale par Donald Trump. Le président américain qui a vu ses tarifs douaniers mondiaux de 10% invalidés par la Cour suprême, c'était hier... on va en discuter ensemble, le président américain qui a aussi eu Ursula von der Leyen au téléphone hier pour lui donner finalement un délai parce que ça devait arriver plus tôt, jusqu'au 4 juillet, fête nationale américaine. C'est les 250 ans de la création des États-Unis cette année, une date très importante, très politique pour Donald Trump. Il a donné aux Européens jusqu'au 4 juillet pour ratifier l'accord commercial signé en Écosse l'été dernier. Passé ce délai, les droits de douane bondiront à des niveaux beaucoup plus élevés, menace Donald Trump comme à son habitude. Pourquoi ça traîne comme ça, Nathalie Janson, côté européen, pour ratifier l'accord de Tenenbaum?
Bon, avec l'Europe, c'est toujours quand même un mystère, les raisons pour lesquelles ça traîne. On est toujours partagé entre le fait que finalement, ils n'ont pas envie de répondre et le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, effectivement, je ne suis pas dans le secret de Polichinelle, donc je ne sais pas lequel des deux est vrai. Mais effectivement, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a sans doute un peu des deux. En tout cas, c'est sans doute pas facile parce qu'on n'a pas les mêmes vues sur le commerce, de façon générale. Donc, ça ne facilite pas en fait les discussions et les avancées très certainement.
Ouais, il y a les questions de ratification aussi par tous les pays, il y a tout le process européen, la lourdeur évidemment.
Il est par définition long.
Européenne.
Christian, je pense aussi que les Européens sont pas pressés d'accorder parce que rappelez-vous la situation au 1er janvier. La situation au 1er janvier, on avait un accord commercial qui nous garantissait des droits de douane à 15%, alors que tous les autres pays, beaucoup concurrents de l'Europe, avaient des droits de douane beaucoup plus élevés. Donc l'Europe s'en sortait pas trop mal dans cet accord. Aujourd'hui, le problème, c'est que les droits de douane de la Chine qui étaient à 33%, ils viennent de tomber ils sont tombés déjà fin janvier. Là, on a une deuxième sanction parce qu'il y avait un minimum de 10, mais qui vient de sauter. Donc, du coup, on se retrouve que l'Europe, si on a notre accord commercial et que Donald Trump ne peut pas remonter son accord, ses droits de douane, parce qu'il n'a pas la faille juridique qu'il va trouver pour remonter ses droits de douane sur les autres pays, on va se retrouver pénalisés, nous. Nous, on aura 15, alors que la Chine aura peut-être moins. Donc, on n'est peut-être pas pressé. Il ne faut peut-être pas courir là-dessus. L'autre élément, naturellement, c'est que Trump va se retrouver sur une impasse quelque part au fur et à mesure parce que il a tordu le droit américain comme il le fait toujours, mais il se dit l'exécutif c'est tout de suite, la Cour suprême elle met 3 mois à décider derrière si c'est valide ou pas. Donc moi j'appuie.
Et puis penser avoir la Cour suprême à sa botte, on et voit quand pensez, même voilà. C'est la deuxième décision qui va à l'encontre de sa politique.
Il se prend, donc du coup il va devoir mettre des droits de douane, mais ça va être des droits de douane qui vont être justifiés, qui sont une procédure beaucoup plus longue et ce seront des droits de douane sectoriels. C'est pour ça qu'il a réattaqué l'Europe en disant je vais mettre des droits de douane sur l'automobile. Il n'a pas dit je vais mettre des droits de douane sur l'ensemble des produits européens, mais seulement sur l'automobile, parce que maintenant, il va être beaucoup plus limité dans son action en mettant des droits de douane très ciblés. Donc, dans ce cas-là, l'Europe, est-ce qu'on a intérêt à signer un accord commercial large sur tous les produits, alors qu'il pourra seulement nous sanctionner que sectoriellement, et il nous met déjà des droits de douane très élevés sur l'acier et l'aluminium. Alors, est-ce qu'on va juste pour l'automobile accepter des droits de douane pour tous les autres produits? Donc, il y a un vrai débat, mais juste qu'il faut retenir, une nouvelle fois, on rentre dans l'incertitude. Imaginez aujourd'hui, vous êtes une entreprise américaine, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez tout de suite aux Chinois, ou vous attendez fin juillet qu'on y voit plus clair, ou que Trump rencontre la semaine prochaine Xi Jinping et qu'ils se mettent d'accord et qu'ils se serrent la main, quel droit de douane je vais avoir? Parce que, imaginez un distributeur, on parle pas de petits montants là. On parle, est-ce que je vais avoir un droit de douane à 33, à 10 ou à 0?
Eh oui.
Et donc, derrière, moi, si j'achète trop tôt et que mon concurrent l'a pas fait, je vais pas être concurrentiel. Donc, vous voyez pourquoi on a des à-coups très forts aujourd'hui, sur toute l'amélioration du déficit commercial, américain. Il est pas là, déjà. Il est pas là en termes de déficit, et tout ce qu'on a vu, c'est les à-coups qu'on a eu sur les importations et exportations vis-à-vis de la Chine, par exemple, ouais, qui sont liés à ces phénomènes de droits de douane.
Oui.
Et les Américains se dépêchent de constituer leur stock pour après les écouler. Donc, vous voyez, c'est un frein énorme sur l'activité.
Sylvie Cazenave-Perret.
Même lorsqu'on entend parler des droits de douane, on simplifie en fait à l'extrême. On dit c'est les droits de douane de temps sur la France. Nos collègues américains avec qui nous travaillons dans le cadre d'un groupement mondial dans lequel notre entreprise représente notre pays, la France, nous expliquaient ce qui se passe réellement sur des droits de douane d'une machine importée par exemple d'Allemagne,
oui,
aux États-Unis. Eh bien, en fait, toutes les parties de la machine qui sont sourcées en Asie, dans quelques pays que ce, oui, soit, en Italie parfois, oui, en France parfois, doivent être imposées aux droits de douane d'origine.
Local.
Donc, les droits de douane,
c'est-à-dire
nous,
la complexité,
la plexification
du système,
terrible, terrible, d'autant qu'aujourd'hui, ils ont été refusés. Donc, les entreprises qui les ont subies sont habilitées à les réclamer.
Oui.
Et donc, pour se voir restituer ces sommes qu'ils ont perdues. Donc, si vous voulez, c'est une complexification énorme aussi pour les entreprises américaines et l'industrie américaine. Et ça, on ne le voit pas trop parce que, évidemment, nous, on s'occupe de notre cas. Et nous, notre cas, c'est simple, on ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on attend, oui, on attend les décisions pour vérifier que les gesticulations du président Trump sont entérinées ou pas. On ne va pas se paniquer. Et en ce sens, l'Europe, dont on condamne beaucoup l'immobilisme, en fait, fait preuve d'une certaine force d'inertie. Et dans sa force d'inertie, c'est aussi une force. C'est-à-dire que, finalement, ne pas décider, ne pas réagir, ça agace beaucoup le président Trump, mais en même temps, ça permet d'y voir clair. Tout cela ralentit l'économie, ça c'est la conséquence, puisqu'on ne peut pas prendre de décision dans un univers aussi, aussi incertain. Ça, c'est la conclusion que je pourrais donner sur cet épisode.
Nathalie,
juste pour préciser juste un petit point, ce qui est important, c'est que quand vous importez aux États-Unis, vous payez tout de suite, vous évaluez, oui, vous-même, l'entreprise évalue son, oui, droit de douane, et ensuite, l'administration américaine vous revient en disant,
oui, ou pas,
vous avez bien évalué ou pas.
Ouais.
C'est fou.
Ça veut dire que tous ceux qui importent aujourd'hui, ils payent tout de suite le droit de douane. Et s'il est supprimé, c'est à vous d'aller réclamer à l'administration américaine en disant, j'ai payé ça, j'avais évalué ça, mais depuis, ça a changé, donc remboursez-moi. Et donc, il faut passer au tribunal. Donc, vous voyez la complexité pour vous faire rembourser.
Oui, les coûts.
Donc, c'est vrai que vous êtes une entreprise américaine, il y a une décision dans 3 mois, bah vous vous dites, je ne vais pas importer ma machine si je n'en ai pas besoin, je ne vais pas l'importer maintenant, je vais attendre qu'il y ait une décision, comme ça j'évaluerai mes droits de douane, parce que sinon, il va falloir que j'aille au procès, que j'aille à court, demander remboursement de l'administration et tout ça, vous voyez. Donc ça explique pourquoi il y a aussi ce blocage qui est très, très
important. Non, mais ça devrait, si je vous écoute, tout devrait être gelé, il devrait y avoir plus aucun échange entre les deux, c'est catastrophique.
Ça explique en grande partie les à-coups qu'on a eu sur le commerce chinois, parce qu'ils ont constitué certaines entreprises ont plus d'un an de stock, de constituer.
De stock, ouais. Parce qu'elles sont, effectivement, elles se sont adaptées. Voilà.
Nathalie Janson, quel bilan vous tirez-vous de 1 an de guerre commerciale? Non, mais moi, je trouve, pardon, on a annoncé, y compris sur ce plateau, il y a 1 an, après le Liberation Day, que ça allait être catastrophique, l'effondrement de la croissance. On a tous eu très peur, quand même, quand il a sorti son tableau, qui ne voulait rien dire avec les différents chiffres qu'on a essayé de décrypter. Et puis, finalement, 1 an plus tard, on a vu que le commerce international a progressé en 2025, et plutôt très sensiblement.
Oui, en fait, c'était la bonne nouvelle, effectivement. Il y a eu plusieurs rapports dans ce sens-là. Il y avait eu aussi de DHL Express qui allait dans ce sens. La croissance du commerce mondial continue. Effectivement, elle est moins dynamique qu'elle l'était il y a quelques années, mais effectivement, elle progresse à peu près de la croissance mondiale, un petit peu supérieure, si je me rappelle bien. Et elle prend en effet des structures, la globalisation mondialisation se fait différemment.
Oui, ça a changé. Il y a des voies, ça prend des voies différentes.
Et on voit
en Asie,
à nouveau,
sur le continent américain.
Exactement. Et en fait, on voit à nouveau que les entreprises, elles prennent acte des problèmes d'incertitude. Et après, elles vont essayer de trouver sans doute des nouvelles voies qui leur créent moins d'incertitude. Donc, Trump, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas le maître du monde. Il va pas, il est pas là. Il va pas empêcher les entreprises de réagir à ses politiques. Et puis, si un jour effectivement les entreprises ont moins envie de commercer avec les États-Unis, tant pis pour lui. Et je dirais pour son avantage, c'est faut aussi rappeler que les États-Unis ne sont pas très dépendants en fait du commerce mondial, parce que le commerce mondial par rapport au marché américain, c'est un peu plus de 10% au niveau de l'ouverture.
Eh oui.
Voilà, c'est pas le Danemark ou la Norvège ou des petits pays qui effectivement sont très ouverts sur le commerce mondial. Donc effectivement, il a beaucoup perturbé, mais après tout, finalement, dans la vie de tous les jours, évidemment, ça perturbe. Voilà, les exemples qui ont été donnés, je vais pas les contester. Mais globalement, en fait, c'est finalement, ça ne change pas fondamentalement le fait que le marché est aujourd'hui mondialisé, que les entreprises raisonnent dans ces termes-là. Mais on va pas revenir à autrement, on va pas se fermer. Et ça, c'est une bonne
La mondialisation n'est pas morte, Christian Parizeau.
Non, elle n'est pas morte. Alors, attention aussi, dans les commerces mondiaux, il y a un effet quand même échange de tout ce qui est autour de tout ce qui est tech. Tout
ça, tech et logiciel, bien sûr.
Qui a beaucoup progressé dans beaucoup le tiré. Commerce physique, et notamment, on le voit avec la Corée du Sud, ce qui se passe. Mais ça pénalise quand même certains Américains. Faut pas l'oublier parce que jusqu'à preuve du contraire, on produit très peu de vêtements aux États-Unis, par exemple.
Oui.
Et les Américains ont vu quand même que ça avait un coût de plus dépendre des Chinois et que ça avait vraiment un impact sur leur pouvoir d'achat. Donc ça génère quand même une inflation aux États-Unis. Mais là,
on le calcule ça parce qu'elle a mis du temps à venir.
Oui, mais c'est parce qu'on a fait tous une erreur et moi le premier, c'est-à-dire qu'on était, on n'a pas raisonné par rapport au fait que. On attendait ces droits de douane, les entreprises se sont préparées et il y a eu énormément de stocks.
Au premier trimestre 2025.
Et ça fait que aujourd'hui vous avez l'effet droits de douane qui est sur l'inflation aux États-Unis. C'est pour ça qu'aux États-Unis vous avez une inflation qui est à 3, mais qui reste à 3 avant le choc. Donc, c'est ce qu'on appelle une inflation collante aux États-Unis résiliente. C'est le fait que ça n'a pas été brutal. Tous les prix n'ont pas été répercutés immédiatement. C'est répercuté dans le temps au fur et à mesure que les stocks arrivent à la
et
fin.
Donc et donc, ça veut dire qu'on va y venir là? Ça y
alors,
est.
On y vient, seulement. Mais ça va pas être un choc d'un seul coup. C'est contrairement à ce qu'on pensait. C'était pas un choc. Et puis d'autre part, alors, a priori, il y a quand même beaucoup de fraude. Alors parce que tout simplement vous faites une simple règle de
déclaration.
Vous faites le taux moyen officiel et ce que ça rapporte à l'administration américaine.
On n'y est pas du tout.
En dessous.
Ouais.
Donc il y a quand même.
Ils attendaient 300 milliards.
Et ça c'est lié par exemple parce que c'est tellement complexe. Il suffit que si vous apportez une statue en bronze, vous êtes taxé. Mais si c'est la matière première bronze, vous n'êtes pas taxé. Donc il suffit de déclarer ça comme matière première bronze et puis voilà. Donc il y a ça et il y a le contournement via le Mexique et via le Canada qui explique aussi beaucoup qu'on a surestimé l'impact. Donc,
bon.
On s'adapte légalement ou
on s'adapte. Ce sera le mot de la fin de cette émission passionnante. Merci à tous les trois, Nathalie Janson, Sylvie Cazenave-Perry, Christian Parizeau, pour cette émission passionnante disponible en podcast replay. Tout de suite, c'est BFM Transmission, animé par Sandra Gandoin. Quant à moi, je vous retrouve lundi, même heure, même endroit, le nouvel horaire, 9h30, 10h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.